Mes amis, nous vous avons dit hier soir que le thème de cette fin de semaine serait à l'écoute de Jésus. Et je veux croire que plusieurs se souviennent du passage que nous allons lire ce matin. Ce sera celui de la brebis perdue. Alors, nous lisons tout de suite, vous avez vos Bibles, dans le troisième évangile que vous trouvez dans le Nouveau Testament, c'est l'évangile selon Luc, et nous lisons ces quelques versets au chapitre 15e. Je lis aussi les deux versets qui nous ont déjà occupés hier soir et qui ont été pour Jésus l'occasion de répondre à ceux qui le critiquaient en le voyant accueillir avec tant d'amour des publicains, des péagers, des gens qui vivaient une vie pas très honnête, et même des femmes de mauvaise vie qui s'approchaient de lui pour l'entendre. Il y avait un groupe de gens religieux qu'on appelait des pharisiens ou des scribes, ceux qui enseignaient la loi, qui jugeaient Jésus en disant, mais ce n'est pas possible qu'il soit un docteur venu de Dieu, puisqu'il se mêle à des gens pareils, parce que eux, les pharisiens, on les appelait les séparés, ceux qui n'avaient aucun contact avec ces pauvres pécheurs mécréants de ce monde. Et alors, Jésus, sachant ce que ces hommes pensaient, a donné cette parabole, ce récit imagé de la brebis perdue au désert et que le berger cherche jusqu'à ce qu'il la trouve. Ce sera donc la toile de fond de notre message de ce matin. Et nous lisons, chapitre 15 de Luc, « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. » Combien nous désirons de tout notre cœur que vous qui êtes ici, vous ayez le désir ce matin de vous approcher de Jésus. Vous me direz, mais nous ne le voyons pas. Il est pourtant là, invisible, mais réellement présent au milieu de nous. Car lui-même, lui qui ne pouvait mentir, nous l'a dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et si vous avez la foi ce matin pour toucher Jésus, cet être invisible mais qui est là, eh bien je suis convaincu que la puissance qui est dans la personne de Jésus vous sera communiqué et que votre vie connaîtra un changement qui ira en grandissant de jour en jour et que depuis ce 11 février, plusieurs parmi vous ne seront plus les mêmes. Qui parmi vous ne désire pas un changement dans sa vie personnelle peut-être, dans sa vie conjugale, dans sa vie familiale ou dans sa vie sociale. Nous demandons à Dieu que ce changement, le Seigneur Jésus, le Tout-Puissant, vous le donne. Et les pharisiens et les scribes, verset 2, murmuraient en disant, cet homme a des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Parce que manger avec un païen ou manger avec ces gens qui ne vivaient pas d'une façon stricte selon la loi de Moïse, et non seulement selon la loi de Moïse, mais selon tous les commandements, toutes les traditions que les Juifs avaient ajouté à la loi de Moïse, eh bien, ils étaient donc méprisés et on ne devait pas les fréquenter. Bien sûr, et qu'il y a un proverbe qui dit, et que Saint Paul citait aussi dans le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, en s'appuyant sur cette parole, que les mauvaises compagnies, les mauvaises fréquentations risquent de vous entraîner dans le mal, dans le péché, dans le désordre, en s'appuyant sur cette parole, les pharisiens avaient l'air d'être dans la vérité et d'avoir raison. Eux voulaient rester des purs. Alors, Jésus, sachant qu'on le jugeait ainsi, qu'on le critiquait, parce que lui n'avait pas peur de ce contact avec des hommes, avec des femmes, quel que soit leur état. Lui savait très bien que ce n'est pas le contact avec les âmes qui nous souille. On peut être proche de tous les hommes tout en étant séparé de toute souillure. Et c'est cela qui compte, n'est-ce pas? Car on peut être aussi séparé de tous les hommes et avoir dans son cœur toutes les souillures possibles. Vous connaissez quelles peuvent être vos pensées. Vous pouvez même être dans une église, dans une salle évangélique, écouter même une prédication et vous rendre compte que vos pensées sont tout ailleurs et que si on vous demandait de dire à quoi vous pensez à ce moment même, vous auriez peut-être honte. Or, si vos voisins, si vos amis ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans votre cœur, souvenez-vous bien que le Dieu auquel vous devrez répondre un jour, lui, sait vos pensées, connaît vos pensées. Vous n'avez pas besoin de sacrer, de dire des gros mots pour que Dieu sache ce que vous pensiez, ce qui était dans votre cœur. Nous avons là un psaume et qui souligne bien qu'aux yeux de Dieu, toutes choses sont nues et découvertes. Il ne juge pas selon les apparences. On peut avoir un beau visage, on peut faire de grands sourires, et pourtant, au fond de son cœur, avoir non seulement des pensées impures, mais des pensées de méchanceté à l'égard de l'un ou de l'autre. On peut être méchant, 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 avec un beau visage. C'est votre cœur qui doit être mis à nu ce matin par la parole de Dieu. Alors, Jésus, qui connaissait toutes choses, s'adresse à ses pharisiens et à ceux qui sont autour de lui. Et il leur dit cette parabole. Il prend donc un exemple que tous peuvent comprendre. En Palestine, il y avait beaucoup de bergers qui s'occupaient de troupeaux, en particulier de troupeaux composés de brebis et de quelques chèvres. Et le berger passait au fond toute son existence avec son troupeau. Même la nuit, il restait près des parcs où habituellement l'on faisait entrer le troupeau pour lui éviter certains dangers, les bêtes sauvages du désert. Alors on avait fait des enclos, des petits murs, et il y avait juste une porte, et le soir, après toute une journée où l'on avait conduit les brebis, le berger se mettait à l'entrée de cette porte, enfin de cette ouverture, et il comptait ses brebis. Chaque brebis entendait la voix de son berger, reconnaissait la voix du berger, et c'est ainsi qu'il pouvait savoir si toutes les brebis qui l'avaient conduit l'avaient réellement suivi et rentraient pour le repos de la nuit. Donc c'était une image que tous pouvaient comprendre. Cela se passait dans la vie courante dans le pays d'Israël. Alors Jésus parle à ces gens et il leur dit cette parabole. Donc ce petit récit imagé, mais qui doit les faire réfléchir. Quel est l'homme d'entre vous? Il parle donc à leur conscience et à leur cœur. Quel est l'homme d'entre vous? Oui, vous, pharisiens, qui jugez les autres. Quel est l'homme d'entre vous? S'il a 100 brebis, c'était déjà un bon petit troupeau, 100 brebis, hein, c'est pas un grand propriétaire, mais il a déjà 100 brebis, ça a une certaine valeur. Et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Et je vous prie de souligner cette parole. Il la cherche jusqu'à qu'il en ait marre, qu'il soit fatigué, qui disent, ça vaut pas la peine, j'en ai quand même 99 que je vais retrouver. Tant pis pour celle qui a voulu faire à sa tête. Mais vous savez que les brebis, quand elles font à sa tête, elles ne savent pas ce qu'elles font. Parce que la brebis est réputée comme un animal plutôt stupide. Bête. Oui, c'est une bête. Mais lui, il aime sa brebis. Et même si vraiment cette brebis s'est éloignée, s'est égarée, il veut la retrouver à tout prix. Parce qu'il pense à elle. Il pense au danger qu'elle court dans le froid de la nuit. Il sait que le loup peut venir et la dévorer. Et malgré tout, eh bien, il veut la retrouver et la retrouver le plus tôt possible. Alors, il la cherche jusqu'à ce qu'il la trouve. Et verset 5, regardez comme c'est beau. Lorsqu'il l'a retrouvée, parce qu'il veut la retrouver, et voilà qu'il l'a retrouvée, et qu'est-ce qu'il fait? Il se met à la battre, à lui faire des reproches. Vous croyez qu'elle comprendrait? C'est pas un chien, une brebis. Peut-être vous parlez à votre chien quand il a fait quelque chose de mauvais, hein. Et puis que lui a peut-être un peu plus d'intelligence qu'une brebis et qu'il comprend. Mais non. Et lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Donc quand même, hein. J'ai marché, j'ai cherché partout. J'ai appelé, maintenant que je l'ai trouvée, eh bien je m'en vais la mener avec mon bâton pour qu'elle avance, pour qu'on retourne à la maison. Non, la brebis est fatiguée, la brebis est épuisée, la brebis est incapable de marcher parce qu'elle s'est blessée probablement à des ronces et des épines parce que dans le désert, vous savez, il n'y a pas beaucoup d'herbe et puis elle est affamée. Alors, le berger prend sa brebis dans ses mains, elle se laisse prendre, hein. Elle ne résiste pas, trop contente quand même d'avoir retrouvé son berger, car il est dit que les brebis connaissent la voix de leur berger, et c'est vrai, et qu'elles ne suivront pas la voix d'un étranger, elle sait que ce n'est pas un voleur qui vient la prendre, elle sait que c'est son propriétaire, celui à qui elle appartient, et qui la ramènera dans le troupeau dont elle fait partie, où il y a d'autres brebis avec lesquelles elle était habituée de manger. Alors, elle se laisse prendre. Il la met sur ses propres épaules, et puis il retourne à la maison. Et quand il est à la maison, il appelle ses amis, ses voisins, les autres bergers qui ont aussi des troupeaux, et que leur dit-il? Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé, quoi, que dit-il, la brebis? Non. Ma brebis. Ma brebis, soulignez bien ce mot, hein. Ma brebis, c'est sa brebis à lui. J'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Puis, le Seigneur ajoute cette application. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Voilà le récit qui va nous occuper quelques instants en ce matin du 11 février. Que la parole du Seigneur puisse pénétrer vos cœurs et vos consciences et que les uns et les autres vous vous sentiez interpellés et que vous ayez le désir de comprendre cette parabole de quoi et de qui il est question. Si nous ne sommes qu'en présence d'un berger plus ou moins anonyme, si nous ne sommes qu'en présence d'un troupeau de brebis et d'une seule qui est perdue, bien c'est peut-être intéressant, mais enfin, tout cela ne nous concerne pas. C'est un récit qui concerne les agriculteurs, peut-être, hein, qui ont un troupeau et qui pourraient comprendre cela. Eh bien, je demande à Dieu, et nous le demandons maintenant, qu'il parle à nos cœurs et que l'Écriture se dévoile à nos yeux. Seigneur, sans ton esprit, sans ta grâce, nous savons que nous pouvons lire et relire ce récit. Nous savons que nous pouvons le connaître par cœur sans avoir été touchés par cette parole de vie. Or, nous croyons que ces paroles, ô Jésus, sont esprit et sont vie, et nous te demandons qu'elles pénètrent nos cœurs et que cette parole méditée ce matin ne retourne pas à toi sans avoir produit le pourquoi tu nous l'as donné aujourd'hui. Amen. Eh bien, en ce matin du 11 février 1984, donc 16 ans avant l'an 2000, je veux croire que Jésus n'est pas un inconnu pour vous. Vous savez que je viens de ce que vous appelez les vieux pays, mais je n'ai jamais eu la prétention, en arrivant au Canada, de dire aux Canadiens et aux Canadiens français, je suis venu des vieux pays pour vous faire connaître Jésus-Christ. Ce n'est pas cette prétention. Voyons. Quand on arrive au Canada, la première chose que nous voyons et qui nous frappe, ce sont ces grandes croix dans toutes les villes ou sur toutes les collines, et l'on se dit, mais le Québec en particulier, c'est un pays et qui connaît Jésus-Christ, puisqu'ils ont des croix partout. Et ce n'est certainement pas la croix de Barabbas, puisque Barabbas n'a pas été crucifié. Et si même vous voyez des calvaires où il y a trois croix, vous savez bien que c'est la croix du centre qui, même pour les Québécois, a quand même la plus grande importance. Oui, il y a un larron qui a été converti, il y en a un autre qui a refusé la grâce, le salut qu'il aurait pu avoir. Mais enfin, au Québec, du moins il y a une vingtaine d'années, Jésus-Christ n'était pas un inconnu. Maintenant, évidemment, on voit tellement d'autres choses, on entend parler de tellement de vedettes, de sportifs, que chacun peut-être a oublié
qui est Jésus-Christ, parce qu'il n'est pas actuel Jésus-Christ. Hein. Tandis qu'il y a des noms qui sont actuels. Et ces noms-là ont leur fond spécialement parmi la jeunesse. Hein. Quelle est votre idole? Idole sportive ou théâtrale ou musicale? Quel est le nom qui occupe votre cœur? Oh, combien je bénis Dieu d'avoir eu la grâce de connaître dans ma tendre jeunesse à l'âge de 13 ans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, le nom de mon Sauveur. Oui, je crois encore que Jésus n'est pas un inconnu pour vous qui êtes rassemblés dans cette salle. Vous savez certainement qui est Jésus, et on n'est pas si loin des fêtes de Noël pour que certains parmi vous aient oublié les crèches que l'on dresse dans les églises pour rappeler la naissance de celui qu'on appelle le Sauveur du monde. Mais pour beaucoup, je le sais, quand on entend parler de Jésus, on nous parle du petit Jésus. Hein. Ah oui, alors à Noël, c'est encore le petit Jésus, parce que on revient à sa naissance. Vous savez qui est le petit Jésus, mais Jésus n'est pas resté petit. Et la preuve, c'est que on n'a pas crucifié un enfant sur la croix. Satan crucifié sur la croix qui se montre dans tout ce Québec, on a crucifié un homme d'âge mûr, un homme en pleine force, en pleine vigueur, un homme de 33 ans qui avait parlé, qui avait agi, qui avait marché sur cette terre de Palestine. Et on l'a crucifié dans une ville de ce monde, dans une ville que vous pouvez visiter aujourd'hui, Jérusalem, et qui n'est pas si loin du Québec, puisqu'il y a des pèlerinages et des groupes, même évangéliques, qui se rendent année après année dans le pays où Jésus est né, à Bethléem, où il a été élevé, à Nazareth, où il a été crucifié à Jérusalem, où il est mort, où il a été enseveli. Mais vous me direz justement, Jésus, oui, nous savons qui il est. Mais qu'est-ce que ça veut dire être en relation aujourd'hui avec Jésus? Vous venez de nous dire qu'il est mort. C'est vrai. Alors, vous allez penser, parce qu'on vous aura dit certainement beaucoup de choses sur mon compte, que je suis peut-être un faux docteur, il nous dit qu'on peut avoir une relation avec un mort. Donc, si M. Racine parle d'une relation avec Jésus, bien, c'est peut-être un homme dangereux. Il entretient des relations avec les morts, donc c'est peut-être un spirit. Peut-être qu'il fait tourner les tables. Ah non, c'est pas mon genre de faire tourner les tables. Mais alors, direz-vous, mais comment peut-on être en relation avec un mort? C'est justement, c'est que Jésus n'est pas seulement mort. Oui, il est mort, c'est vrai. Il est mort, crucifié. Et au Québec, on ne s'est pas trompé en rappelant sa mort par les crucifix. Ça rappelle quand même qu'un jour, ce Jésus a été cloué sur la croix. Je sais très bien que même ceux qui ont fait toute une propagande pour les crucifix en sont plus ou moins écœurés, comme le disait un jour un prêtre. On est tanné de voir ce grand cadavre. Ça ne nous inspire pas de voir ce cadavre tout sanguignolant. C'est pas une belle image. Et ça nous donne le cafard. Hein? Alors oui, bien sûr. Hein? Ça nous donne le cafard. de voir ce crucifix. Alors on veut enlever tous ces crucifix. Il ne faut plus qu'on se souvienne même de cette mort de Jésus. Mais Jésus n'est pas seulement mort. Jésus est réellement ressuscité. Mais ça, Jésus ressuscité, on peut peut-être faire une image de ce Jésus ressuscité et le mettre peut-être au sommet de l'Église, hein, avec des mains percées qui bénit nos villes et nos villages. Et alors, bien, cette image sur le clocher des églises, quoi qu'on y ait mis souvent des croix, mais on a mis aussi des statues, et en particulier, non seulement celle des 12 apôtres, mais celle d'un Jésus ressuscité, et peut-être d'un Jésus, puisqu'on l'a mis au sommet de certaines églises, qui s'en va déjà dans le ciel. Et en effet, nous apprenons qu'après 40 jours, pendant lesquels Jésus ressuscité a vécu au milieu des siens à Jérusalem et en Galilée pour bien prouver la réalité de sa résurrection, il est retourné dans le ciel et il a quitté cette terre, non pas au cap, comment vous l'appelez, Kennedy maintenant, hein, avant c'était Canaveral, en Floride, là, non, il n'est pas parti comme une fusée, mais sur le mont des Oliviers, où nous nous trouvions avec ma femme encore au mois de novembre, l'année dernière, et bien tout à coup, Jésus est monté au ciel, en bénissant ses disciples, et la dernière image que les disciples qui avaient mangé avec Jésus après sa résurrection ont eue, c'était les mains percées, ouvertes, pour les bénir. Il est parti là-haut, dans la gloire. Et vous me direz, oui, mais tout ça, comment croire à ça? Bien, il y a eu des témoins, dites que ces gens qui nous ont rapporté ces choses dans les évangiles qui sont à votre portée, que vous pouvez lire, c'était des illuminés, des hallucinés, ils ont raconté des histoires, ils ont parlé d'une vision, mais ce n'était pas la réalité. Non, nous dit l'apôtre Pierre, et vous parlez souvent au Québec de Saint-Pierre, hein, bien vous pourriez au moins le croire, si vous l'aimez tant. L'apôtre Pierre dit, ce ne sont pas des fables que nous vous avons racontées, c'est ce que nous avons vu de nos yeux, comme le répète aussi l'apôtre Jean, qui était le disciple intime de Jésus. Nous l'avons vu de nos yeux. Ils l'ont contemplé s'en allant où? Eh bien, d'où il était venu, parce que Jésus disait qu'il allait retourner d'où il était venu. Donc, il prétendait être venu du ciel, et puis qu'il retournait au ciel vers qui? Vers celui qu'il appelait son Père. Et les Juifs, justement, religieux, n'admettaient pas que Jésus puisse appeler Dieu son Père. Oui, Jésus appelait Dieu son propre Père. Et même ressuscité, il a dit à une de ces femmes de mauvaise vie qui le fréquentait et qui s'appelait comment? Marie-Madeleine. Vous savez que les filles de joie, on les appelle encore aujourd'hui des Marie-Madeleine. Hein? Eh bien oui, Marie-Madeleine, c'était une prostituée, une femme qui était remplie de péchés, mais qui n'était pas heureuse dans ses péchés, puis un jour elle a rencontré Jésus. Elle lui a donné son cœur. Et au lieu d'être une pécheresse qui continuait de pécher, elle est la pécheresse pentie et qui n'a d'amour maintenant que pour son Seigneur, que pour son Sauveur, et qui veut le suivre, et comme elle a de l'argent, elle l'assiste de ses biens. Elle met tout à la disposition de Jésus, et qui satisfait pleinement son cœur. Et à cette Marie-Madeleine, Jésus avait dit, « Va, dis à mes frères, je monte vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu, vers mon Père, qui est aussi votre Père. Est-ce que vous pouvez dire cela ce matin, du 11 février, que le Dieu de Jésus-Christ est votre Dieu, que le Père de Jésus-Christ est votre Père, que vous êtes son enfant, et qu'avec ceux qui sont aussi ses enfants, vous êtes quoi, les uns pour les autres? Des cousins éloignés? Non, des frères. Des frères et des sœurs qui s'aiment dans l'amour de Jésus. Oui, il retournait de là où, d'où il était venu. Alors vous me direz, mais qu'était-il venu faire sur la terre? Et il le disait lui-même. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Les hommes, lorsque Jésus est venu il y a bientôt 2000 ans, étaient perdus. On ne savait pas que faire pour être sauvé, et pour être sauvé avant cette mort qui doit atteindre tous les hommes. En 1984. Comment voyez-vous le monde? Le monde est-il sauvé? Il va mal. Le monde va très mal. Et les hommes sont toujours perdus. Notre génération se demande où elle va. Et l'on craint un cataclysme effroyable, puisque l'on sait maintenant que l'homme, avec son intelligence, qui est conduite par le meurtrier, par Satan, pourrait faire sauter la planète. Et il y a de l'angoisse sur la terre, dans le cœur des hommes, et particulièrement dans le cœur des hommes instruits, même s'ils ne croient pas. Ils disent dans les médias d'information, dans les journaux, ils disent leur terreur. Nous avons notre premier ministre canadien qui sait de quoi il est question et qui a trouvé bon d'aller visiter toutes les capitales de ce monde, des grandes villes de ce monde, pour essayer de convaincre les dirigeants de notre planète de faire la paix, de cesser de construire de nouvelles armes destructives et d'arriver vraiment à ce que le monde puisse connaître un peu de tranquillité et un peu de paix. Mais vous le savez bien, quand le monde connaît un peu de tranquillité et un peu de paix, il oublie Dieu, il transgresse sa loi, il blasphème, et il continue sa route vers la perdition morale qui suscite fatalement la perdition matérielle, ça va mal partout, et cela conduit à une autre perdition plus grave encore que la perdition morale et que la perdition physique, mais la perdition éternelle dans l'au-delà. Alors, Jésus disait qu'il était venu sur la terre pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et si vous voulez connaître un peu de son œuvre, un peu de ses paroles, et pas seulement les connaître, mais les croire, que faudra-t-il que vous fassiez maintenant? Il faudra que vous preniez vos Bibles, parce que vous savez que maintenant, même dans l'Église romaine, qui pendant longtemps ne vous permettait pas de lire la Bible, eh bien, il y a un grand effort pour faire connaître la Bible et répandre la Bible partout. Donc, plus personne ne peut prendre cette excuse, moi, je ne dois pas lire la Bible. Vous pouvez lire les Évangiles, vous pouvez vous documenter sur ce que Jésus-Christ est, sur ce qu'il a fait, et sur ce qu'il demandait. Alors, mes amis, je vous le demande, est-ce que vous lisez la parole? Ou bien, est-ce que vous dites, oh, mais moi, je vais à l'église, et puis, j'entends le sermon, ça me suffit bien. Et maintenant, oui, on lit une portion dans l'Ancien Testament, une portion dans les épîtres de Paul, et puis on nous lit l'Évangile, de sorte que j'en connais assez. Si vous allez à la messe tous les dimanches, que sais-je, ou si vous allez dans un culte chrétien tous les dimanches, ou même dans une réunion de la semaine, c'est bien suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut que vous lisiez vous-même l'Écriture. Et ce que je vous conseillerais, c'est quand vous faites cette lecture, de lire cela à haute voix, pour que, en même temps que la parole entre par vos yeux, qu'elle entre aussi par vos oreilles. Alors, elle descendra dans votre cœur. Et vous commencerez à mémoriser ces choses. Et cette parole ne sera plus dans les couvertures d'un grand livre, ou d'un gros livre, ou d'un petit livre d'un Nouveau Testament, mais ces paroles seront en vous. Ils seront avec abondance. Et alors, vous ferez une expérience extraordinaire, c'est que vous vous apercevrez que dans le travail, dans vos occupations les plus diverses, dans vos relations avec vos enfants ou avec votre mari, si vous êtes marié, ou avec votre femme, dans vos relations avec vos collègues de travail, quel qu'il soit, quelque chose sera changé. Cette parole de Jésus aura une influence sur votre cœur. Oh, vous ne serez pas de ceux qui citent des versets bibliques à tort et à travers et qui assassinent les gens qui les entourent avec des textes bibliques en leur disant « crois à ceci, crois à cela ». C'est pas comme ça que vous allez convertir le monde. Mais quand ces gens qui vous connaissent bien et qui savent très bien quel est votre caractère, eh bien, quand ils le verront qu'il y a quelque chose de faux, que vous n'êtes pas le premier à vouloir partir dès que l'heure est là, hein, même le travail n'est pas fini, bien c'est l'autre qui finira. Hein. Non, mais s'ils voient que vous avez une conscience qui parle, et que votre travail, vous l'accomplissez d'une autre manière, que vous faites cela bien, non pas seulement pour ce sale patron qui est un voleur, mais que vous le faites parce que vous êtes employé là et que vous voulez être régulé parce que vous avez découvert que le vrai patron, le patron des patrons, c'est qui? C'est Dieu. Et qu'un jour vous aurez à rendre compte à Dieu. Eh bien, votre vie, le monde s'apercevra qu'elle est changée. Et c'est pas vous qui aurez d'abord besoin de rendre témoignage. C'est le monde qui dira, mais ces gens ont changé. Ils ne sont plus les mêmes et ils vous poseront des questions. Vous pourrez répondre à des questions et ne pas assassiner les gens en voulant les convertir avec votre évangile, avec ce qu'ils appellent votre nouvelle religion pour les amener à votre secte. Tout cela disparaîtra et on s'intéressera à la raison et qui vous a mis une telle espérance en vous et qui vous fait traverser même des épreuves, je ne dis pas toujours avec le sourire, mais avec une sérénité, en restant dans la paix, en ne vous plaignant pas toujours de vos maux, de vos misères, comme s'il n'y avait que vous qui souffriez dans ce monde. Alors qu'au Canada, on a honte encore presque d'être si bien. Vous savez qu'au Liban, eh bien, dans ces journées, il y a des gens qui n'ont pas mangé depuis des jours parce qu'ils sont enfouis dans des caves, dans des souterrains, leur maison pour la 10e fois est détruite et puis même les camions de vivres qu'ils attendaient et qui devaient arriver avec le drapeau, tout avait été fait pour qu'on leur tire passer, mais il y a des tireurs et qui ont abattu les chauffeurs de ces camions et qui ont éventré aussi ces camions alors qu'on attendait du pain. Vous n'osez plus sortir dans les rues. Et ça se passe aujourd'hui, dans ce mois de février. Ma fille m'a téléphoné l'autre jour, la semaine passée, de Nazareth, et je lui disais, parce que c'est tout près, Nazareth, du Liban, comment vas-tu? Et elle me dit, papa, tu sais, on a même honte encore, nous, à Nazareth, d'être si tranquilles, malgré tout, un peu plus loin, mais ça peut venir d'un jour à l'autre aussi, en Israël. Alors, voyez-vous, chers amis, nous devons être des gens reconnaissants, qui rendent grâce pour toutes choses. C'est tellement naturel d'avoir du pain, c'est tellement naturel, n'est-ce pas, d'avoir à manger encore raisonnablement, même des hot dogs. Il y en a qui n'en ont pas. Alors rendons grâce même pour un hot dog. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que quand on a faim, eh bien, c'est pas d'abord un bistec qu'on cherche. Quand on a faim, n'importe quoi, n'importe quelle nourriture, lisez les évangiles. Et alors, vous apprendrez à connaître Jésus. Et vous serez complètement renouvelé. Vous verrez Jésus à 30 ans lorsqu'il arrive au bord du Jourdain et qu'il voit son cousin. Qui était son cousin? Jean-Baptiste, c'est le patron du Québec. Il déconnaît ça, hein? On dit ça. Eh bien, Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Et voilà que Jean-Baptiste prêchait au bord du Jourdain et puis disait « Repentez-vous ». Qu'est-ce que ça veut dire « Repentez-vous » ? Il disait, mais changez de vie, ça ne peut plus continuer ainsi. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui va arriver, c'est le jugement de Dieu. Vous transgressez sa loi, vous connaissez sa loi, mais repentez-vous, repentez-vous. Il y avait justement de ces péagers, de ces gens de mauvaise vie qui venaient, des prostituées, qui venaient au baptême parce qu'elles savaient bien que ce n'est pas comme ça qu'on gagne sa vie. En vendant son corps. Elles étaient malheureuses, mais comme il y en a qui nous le disent aujourd'hui, c'est mon boulot, c'est mon job, et avant de faire le trottoir, je vais même à l'église et je prie Sainte Rita pour lui demander qu'elle me donne une bonne journée de travail. Alors respectez mon travail. Moi aussi je cours des risques. Risques de maladie. Mais c'est mon boulot. Mais c'était déjà comme ça, dit-on. De Jésus. Et ces femmes qui venaient au baptême de Jean, mais pourquoi est-ce qu'elles venaient? Elles confessaient leurs péchés, elles disaient, c'est faux la vie que je mène, je sais bien, mais je suis dans une telle situation. Mais elles se repentaient, elles auraient voulu une délivrance, elles auraient voulu que quelque chose change. Et Jean-Baptiste les baptisait, tels qu'ils étaient. Et puis les péagers aussi leur donnaient quelques enseignements. Ne demandez pas des taxes plus grandes que celles que vous devez percevoir. Soyez donc honnêtes. Puis il annonçait, mais vous savez, moi, je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Je peux vous préparer à recevoir quelqu'un de plus grand. Qui? Celui qui a été promis dans les Écritures. Moi, je ne le suis pas. Mais il y en a un parmi vous que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vous baptise du Saint-Esprit. Puis un jour, il voit Jésus venir à lui. Puis il dit, voilà, c'est ce qu'il a dit, en le voyant. Alors, vous avez, oh non, mais il n'y a plus de protection hein, à la Saint-Jean-Baptiste. Alors, vous ne voyez plus ça. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, hein? Voilà l'agneau de Dieu, vous dites le mouton, hein? Bon, le mouton c'est Jean-Baptiste, bon, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il est là, celui que je vous annonçais, celui que je disais, il en viendra après moi, un plus grand que moi, dont je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Le voilà, il est là, c'est lui que vous devez écouter, c'est lui que vous devez suivre. Et plusieurs ont quitté Jean-Baptiste et ont suivi Jésus. Et il y avait parmi ceux qui suivaient Jésus ces gens de mauvaise vie, ces prostituées que Jésus avait pu transformer. Et puis il y en avait d'autres qui, voyant cette transformation, ces gens-là, désiraient aussi entendre Jésus. Mais des gens religieux, des gens qui eux pensaient être justes, qui n'avaient rien à se reprocher parce qu'ils observaient la lettre de la loi. Ils disaient, moi je n'ai pas tué. Il y en a qui disent, hein? Et moi je n'ai pas tué, c'est le péché que j'ai commis. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas commis adultère. C'est du positif ça, hein?
tout ce que vous n'avez pas fait, ben, quand vous n'avez pas fait ça, vous n'avez encore rien fait. Hein? Parce que quand vous n'avez pas tué, vous n'avez pas encore aimé. Quand vous n'avez pas commis adultère, ben, vous n'êtes pas encore un saint dans vos pensées, pour autant. Hein? Parce que Jésus disait qu'un homme qui regarde une femme simplement et qui la convoite dans son cœur, il a déjà commis adultère. Alors, on est un petit peu mal à l'aise. Et puis bien d'autres choses. Quand vous n'avez pas volé, vous n'avez pas encore donné. Donné. C'est ce que le Seigneur nous apprend. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et alors, voler, ben oui, vous n'avez pas volé. Mais vous avez convoité. Vous avez envié ce que les autres possèdent de plus que vous. Et vous avez eu des idées méchantes dans votre cœur. Vous avez été jaloux des autres. Et vous ne les avez pas aimés. Et c'est cela les grands commandements de Dieu, qui résume tous les autres. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Et aimer son prochain comme soi-même. Alors si c'est ça le grand commandement, je suis le plus grand des pécheurs. Je suis un grand pécheur parce que je découvre que je n'ai pas aimé. Et que...